Manger végétal et cru avec Marie-France Lartigue.
Bonsoir tout le monde, merci d'être venus si nombreux pour écouter ma conférence sur le thème manger végétal et cru. Je suis très étonnée de voir déjà le nombre que vous êtes qui me montre que vous êtes déjà très intéressés par ce sujet. Donc je vais parler pendant une trentaine de minutes et ensuite vous aurez la parole, vous pourrez poser des questions. Voilà, donc comme Paul a dit, je m'appelle Marie-France Lartigue, j'ai une formation de microbiologiste, j'ai un doctorat de microbiologie. On va beaucoup parler de bactéries pendant cette petite présentation. Je me suis intéressée depuis quelques années à l'alimentation, à l'alimentation, ça fait une bonne 20, peut-être presque 30 ans que je m'intéresse à l'alimentation. Je me suis posé des questions, j'ai essayé beaucoup de choses. Et puis un jour, j'ai rencontré une personne qui me paraissait vraiment très lumineuse, très, très vivante. Et elle m'a dit qu'elle mangeait que du végétal et cru. Et à partir de là, j'ai fait mon expérience. Et je vais essayer de vous relater un petit peu cette expérience aujourd'hui. Donc en vous présentant ce qu'on appelle l'alimentation vivante, ou ce qu'on appelle aux États-Unis la raw food, c'est-à-dire l'alimentation brute, l'alimentation pure, une alimentation non transformée. Je suis tellement intéressée par ce sujet que j'ai créé un site internet qui s'appelle Crudilove, comme c'est écrit en haut. Et j'ai créé aussi un lieu là où j'habite, c'est-à-dire dans les Hautes-Pyrénées, c'est pas tout à côté. J'ai créé un lieu dans lequel j'expérimente l'alimentation vivante, surtout tout ce qui a trait aux transformations avec les bactéries, donc les fermentations. Et ce lieu s'appelle le Crudi Lab. Voilà, donc je donne des formations dans ce lieu. Alors, quand on parle pour moi d'alimentation vivante, on ne peut pas parler d'alimentation vivante, ni de digestion d'ailleurs, ni de santé, sans parler du petit peuple, comme je l'appelle, qui habite avec nous. Parce qu'on a l'impression qu'on est tout seul, bien des fois, mais en fait, c'est qu'une impression, puisque 90% des cellules qui nous composent, en tout cas pour ma part, 90% des cellules qui me composent sont des bactéries. Donc, ça fait vraiment. C'est un grand changement de perception de nous-mêmes. Et la science montre ça aujourd'hui. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises avec cette découverte. Ces bactéries, en tout cas celles qui vivent dans l'intestin, on les appelait la flore intestinale. Bon, depuis quelques années où on s'intéresse beaucoup plus à ces bactéries, on leur a donné un autre nom. On les appelle le microbiote et on appelle l'environnement de ces bactéries le microbiome. Alors les bactéries qui vivent avec nous, nos colocatrices, elles vivent sur notre peau, elles vivent dans toutes nos cavernes, on va dire, donc à la fois le nez, les oreilles ou le vagin chez les femmes. Donc, ce microbiote, on pense qu'il concerne quelques 100 000 milliards d'individus. Ça fait quand même beaucoup. Donc, ça fait 10 fois plus que nos propres cellules. Et nous avons mission de les nourrir en nous nourrissant pour qu'à leur tour, ils nous nourrissent parce que je ne peux pas vivre sans eux, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Alors j'ai noté sur cette, sur le dessin que vous voyez là, sur cette photo, vous avez une photographie de ce qu'on appelle l'intestin grêle, donc avec ce qu'on appelle la bordure en brosse. Donc ça fait comme un petit tapis moelleux, et dessus sont accrochés des bactéries qui sont nos colocatrices, qui sont nos petites aides. Donc on va voir en quoi elles nous aident. Et quand je mange, quand je me nourris, que je me nourrisse de n'importe quoi d'ailleurs, je vais nourrir à la fois mes cellules, mais ça va être secondaire. D'abord, je vais nourrir les cellules de ma bordure en brosse, donc les cellules épithéliales, qu'on appelle des entérocytes dans l'intestin grêle. Et je vais nourrir les bactéries qui habite à cet endroit. Et en troisième position seulement, je nourrirai mon organisme. D'accord ? Donc, ces bactéries et cette bordure en brosse, je dois leur donner des substrats qu'elles vont utiliser. Ces substrats, ça va être les sucres, c'est noté en haut. Les acides aminés, protéines, ça, c'est les deux plus grosses familles. Ça va servir à nourrir les deux plus grosses familles représentées dans mon système intestinal. Ensuite, j'ai une troisième famille qui va se nourrir de nitrates et de sulfites. Donc, vous voyez, on parle des fois de nitrates en mâle. On dit, tiens, ce vin a des sulfites. Ben, il y a des bactéries qui se sont spécialisées dans la digestion de ce genre de substrat. Pour elles, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste un substrat. Ça, c'est très différent. Les bactéries ne compartimentent pas les choses en bonnes et mauvaises. Et ensuite, on a une troisième famille qui va métaboliser d'autres substrats comme l'éthanol, l'hydrogène, etc. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? C'est pour vous montrer déjà qu'on a une très grande diversité de substrats chez les bactéries. Elles peuvent métaboliser, elles peuvent digérer beaucoup de choses qui, pour nous, ne sont pas des choses digestes. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte, c'est que si je suis bien habitée par mes bactéries, si je leur fais une belle place, si je les considère bien, elles vont me rendre d'énormes services. Elles vont faire en sorte que des choses qui sont des poisons pour moi vont devenir des aliments. Ça, c'est quand même très, très intéressant, je pense. Donc elles sont capables, je l'ai noté ici, de digérer ce qu'on appelle des xénobiotiques, c'est-à-dire tout un tas de choses produites par la chimie qui sont des choses mauvaises pour nous, pour nos cellules, bien les bactéries vont apprendre peu à peu à se nourrir avec. D'accord ? C'est le cas des antibiotiques. D'accord ? Et dans ce cas, on va dire, quand une bactérie apprend à se nourrir d'un antibiotique, on va dire elle devient résistante. Elle devient résistante parce que, de mon point de vue, j'utilise les antibiotiques pour les détruire. D'accord ? En général, quand on prend des antibiotiques, c'est parce qu'on veut détruire les bactéries. C'est parce qu'on n'a pas encore compris quels sont nos alliés. Et c'est un petit peu à ça que sert cet exposé, c'est à faire prendre conscience que je ne peux pas lutter contre les bactéries puisqu'elles sont moi. D'accord ? Donc si je lutte contre elles, je lutte contre moi et contre la vie en général. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Et à quoi servent ces bactéries qui sont à l'intérieur de moi ? Qui représente donc un nombre assez incroyable de 100 000 milliards d'individus, qui se divisent toutes les 20 minutes. Donc c'est une croissance vraiment très grande. Ces bactéries sont là sur Terre depuis 3 milliards et demi d'années. Donc à mon avis, elles connaissent bien plus que moi, qui suis là juste depuis 53 ans, sur la vie. Elles ont un recul vraiment incroyable. Et pour les gens qui s'intéressent à la génétique, on a montré récemment qu'il y a à peu près 150 fois plus de gènes chez les bactéries que nous hébergeons que dans notre propre génome. D'accord ? C'est comme si on a un livre qui ferait 150 pages et notre génome, c'est juste une page. Donc ça demande un petit peu aussi de respect par rapport aux bactéries. Ça veut dire qu'elles mettent à notre disposition une collection incroyable d'informations qui font qu'on est capable de digérer des choses et de les métaboliser, de les utiliser et de rester en vie et en santé. Alors, qu'est-ce qu'elles font pour nous ? Elles participent donc à notre digestion, c'est ce qui est noté tout en haut, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je mange, bien les bactéries vont terminer mon repas, elles vont le digérer, pour que ça soit digeste pour moi après, pour que je puisse l'utiliser. Sans leur travail, je ne peux pas avoir un rendement aussi efficace sur mon alimentation. Ça, c'est un premier rôle. Un deuxième rôle, c'est un rôle dans mon immunité. Alors, je ne peux pas avoir une bonne immunité si mes bactéries ne sont pas en bonne santé. 70% de mon immunité se trouve dans ma muqueuse intestinale, dans mon intestin. 70%, ça fait beaucoup quand même. Donc quand cet endroit-là ne va pas, il n'y a plus rien qui va. Je ne rentre pas dans les détails de comment ça marche, peut-être aux questions, on pourra aller un petit peu plus loin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles permettent de détoxifier, c'est-à-dire qu'elles permettent de métaboliser tout un tas de produits qu'on appelle des xénobiotiques ou des antibiotiques, par exemple, c'en est un. Cette détoxification vient supporter celle qui est produite normalement par le foie. Donc c'est très important pour mon organisme d'avoir ces aides qui vont permettre de nettoyer mon organisme. Et aujourd'hui, malheureusement, avec tous les polluants que nous avons autour de nous et que nous produisions nous-mêmes, on en a vraiment besoin. Ensuite, elles ont un rôle de synthèse. Ça, peut-être que certains d'entre vous savent déjà que la vitamine B12, par exemple, qui est souvent pointée du doigt, notamment pour les végétariens ou les végétaliens, eh bien, cette vitamine B12, elle est produite par des bactéries qui sont dans notre flore. Souvent, c'est des bactéries qui sont plutôt dans le côlon. Alors, on dit, bon, peut-être que ça ne sera pas trop bien assimilé. Mais en attendant, nos bactéries produisent de la vitamine B12, comme elles produisent d'autres vitamines du groupe B, comme elles produisent de la vitamine K, qui est la vitamine de l'anticoagulation, qui va permettre de coaguler, pardon. Voilà, donc ça, c'est pour le rôle des synthèses, présenté très brièvement. Et ensuite, elles jouent un rôle aussi dans la neuromédiation. Puisqu'aujourd'hui, donc là je parle bactéries et muqueuses, hein, pour tous ces rôles, ce sont les deux entités, microbiote et microbiome, qui sont impliquées. On sait aujourd'hui qu'on a au niveau de notre muqueuse intestinale et de notre système intestinal autant de neurones que nous avons dans le cerveau et autant de nerfs que nous avons dans la colonne vertébrale, ce qui fait qu'on appelle aujourd'hui notre système intestinal le deuxième cerveau. On n'est pas là pour savoir qui est le premier ou le deuxième. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a des liens entre ce qu'on pensait il y a quelque temps se dérouler dans la tête et puis ce qui se déroule dans le ventre. Tout ça est totalement relié. On ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. Donc, voilà un petit peu le décor planté. Nous sommes une symbiose avec des bactéries. Il y a aussi des levures, mais c'est surtout des bactéries. Et nous avons pour mission de conserver cet écosystème, parce que c'est vraiment un écosystème, dans le meilleur état, parce que sinon, nous ne pourrons pas être en bonne santé. Alors, comment est-ce que ça fonctionne dans le quotidien ? Eh bien, si je ne m'occupe pas bien de cet écosystème, en faisant diverses choses, eh bien, je vais le mettre en situation inflammatoire. On va parler aussi de la porosité intestinale, c'est-à-dire que pour que ce système fonctionne, mes cellules doivent être jointives. Ça veut dire que entre deux cellules dans mon intestin grêle, je ne dois pas avoir d'espace. Et quand j'ai des espaces entre ces cellules, des petites molécules, plus ou moins grosses, et aussi des bactéries peuvent passer directement dans ma circulation sanguine, ce qui n'est pas du tout souhaitable. On appelle ça la porosité intestinale, c'est-à-dire votre intestin devient comme une passoire. En anglais, on appelle ça le leaky gut syndrome. On le retrouve dans pratiquement toutes les pathologies, comme on va le voir sur la diapositive suivante. Et ce processus de porosité va produire une inflammation au niveau de ma muqueuse qui est présentée dans la deuxième partie de ce schéma. J'ai montré ici, en fait, un petit peu les causes principales de cette inflammation. Et vous allez voir qu'elles sont cumulatives. Chez tout le monde, on va retrouver plusieurs causes. On a des polluants, des additifs alimentaires ou des polluants ou des toxines environnementales, le fait de cuire sa nourriture, ça je vais développer bien sûr après, le fait d'être stressé, le fait de prendre des médicaments, des anti-inflammatoires ou la pilule, des périodes de la vie comme la ménopause, mais d'autres périodes où on va avoir des modifications hormonales, le fait de boire de l'alcool, parce que tout le monde sait que l'alcool, ça détruit les bactéries et ça détruit les cellules. On s'en sert en médecine et en biologie pour stériliser. Le sport intensif, ça, c'est beaucoup moins connu que quand on fait du sport de façon intensive, on va léser sa muqueuse intestinale ou bien les infections bactériennes. Tout ça va produire de l'inflammation. Donc, c'est additif, évidemment. Je peux être dans plusieurs cas. Et produisant de l'inflammation, tout ça va faire que ma muqueuse va être plus ou moins poreuse. Une muqueuse poreuse, ça va se voir notamment quand on va rendre sa muqueuse poreuse quand on mange des produits à base de riches en gluten, pardon, plutôt en gliadine. Donc c'est le cas de notamment des trois céréales qui sont impliquées, qui sont riches en gluten, sont le blé, le seigle et l'orge. Donc ces céréales contiennent, on parle beaucoup du gluten, mais en fait ce sont des gliadines. Et aussi, je vais traiter les deux en même temps, les produits laitiers qui contiennent de la caséine vont, et du lactose, vont faire par des mécanismes biologiques, vont rendre la paroi intestinale poreuse. D'accord ? Et donc, on va se trouver après avec un passage directement de la lumière intestinale vers le sang. Et on va observer ce passage aussi lors de repas cuits, d'accord ? Puisque quand on fait une analyse sanguine après un repas cuit, on va avoir une augmentation des globules blancs qui sont signes d'inflammation. C'est pour ça que quand vous allez faire une prise de sang pour voir si vous avez une inflammation, en fait, on vous demande de venir à jeun. Mais si vous mangez cru, ça a été observé, il n'y a pas de leucocytose, c'est-à-dire on ne voit pas cette augmentation des leucocytes, des globules blancs. Ça veut dire que quand on mange cuit, le corps répond comme si on lui donnait une inflammation, comme si on lui donnait une infection, comme s'il devait lutter contre ceux qui entrent dans le corps. Alors on va expliquer un petit peu, donc on a vu quelles sont les causes un petit peu générales de la dysbiose intestinale, c'est-à-dire le fait d'avoir un déséquilibre au niveau des bactéries, qui se traduit aussi par une inflammation de la muqueuse. Et maintenant, quand ça arrive, voilà ce qui va se passer. Tout ce qui est noté sur cette diapositive sont des conséquences. Je ne dis pas que ce sont les conséquences, il n'y a pas que ça comme cause, mais ça fait partie des conséquences d'une inflammation ou d'une porosité intestinale qui va se traduire par la maladie sous plein de formes. Mais toutes ces formes ont une origine digestive. Ça représente 247 milliards d'euros en 2013, soit à peu près 12% du PIB. Donc c'est énorme. Et je pense que c'est à prendre en considération pour chacun. Donc, un grand point d'interrogation, comment est-ce qu'on fait avec ça maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? D'accord, je vous explique que si mon système digestif n'est pas performant, si je l'abîme, après je tombe malade. D'accord ? Alors maintenant, je voudrais vous parler un petit peu des besoins vitaux qui vont faire que je ne me trouve pas dans le cas précédent, c'est-à-dire pourquoi je peux m'y trouver à des moments et pourquoi comment je peux ne pas m'y trouver. Les besoins vitaux, pour moi en tout cas, c'est premièrement un apport régulier et diversifié en bactéries. Puisque ces bactéries sont moi, puisque ces bactéries sont la cause ou en tout cas un acteur très important dans ma santé, je dois faire entrer dans mon corps des bactéries. Ça, c'est un petit peu dérangeant parce qu'on nous a appris, on nous a élevés avec l'idée que la bactérie, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très sympathique. C'est quand même quelque chose qui peut être pathogène, qui peut être responsable de ma maladie. C'est pour ça que je prends des antibiotiques, c'est pour ça que je mets du chlore dans l'eau, c'est pour ça que je cuis la nourriture en général. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que si on appauvrit sa muqueuse intestinale en bactéries, si on appauvrit la diversité de cette muqueuse, alors on est malade. On voit très bien ça chez les personnes en obésité. Les personnes qui sont en état d'obésité grave, on voit qu'elles ont une flore intestinale qui est beaucoup plus pauvre en qualité. Ils peuvent avoir une flore en nombre plus élevé peut-être, mais en qualité, il y aura moins d'espèces bactériennes que chez quelqu'un qui a une santé et un poids normal, sain. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On fait des transplantations de flore. On prend des personnes saines et on va transplanter de la flore de la personne saine vers la personne atteinte, par exemple, d'obésité ou de diabète. Ça veut dire qu'on va transplanter des matières fécales qui sont très riches en bactéries. Il faut savoir qu'un gramme de matière fécale, un gramme de caca, quelle que soit la personne, contient à peu près autant d'habitants bactériens qu'il y a d'humains sur la Terre. C'est à peu près 7 milliards d'individus bactériens dans un gramme de sel. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des matières fécales de personnes saines et en milieu hospitalier, c'est tout à fait... on a un protocole, c'est tout à fait réglé. On transplante, on fait une greffe de microbiome et de microbiote, en fait, pour que ces personnes puissent aller mieux. Et ça marche, ça marche. On peut réduire des diabètes, on peut réduire des obésités. On peut permettre à des gens qui sont incapables de se défendre, pour lesquels aucun antibiotique n'est efficace, on peut faire des transplantations fécales aussi. Donc on a quand même conscience au milieu hospitalier que une flore en bonne santé est absolument indispensable pour être soi-même en bonne santé. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir des bactéries. Or, qu'est-ce que je fais si je cuis ? Même à la vapeur douce, même avec le vitaliseur, même de n'importe quelle façon que vous voulez, quand vous dépassez 42 degrés, vous tuez les bactéries. Donc, pour moi, la première chose dans ce courant d'alimentation vivante, c'est de dire que quand on mange cru, on restaure sa flore. L'irradiation aussi, il faut savoir que l'irradiation tue les bactéries, les UV, les radiations ionisantes, tout ça, le chlore, les biocides, l'alcool, tout ça va tuer les bactéries. Ce qui va apporter des bactéries, c'est de manger cru, ça je l'ai dit, et puis de manger des aliments fermentés. Donc des aliments fermentés, je suis sûre que vous connaissez tous des aliments fermentés. Est-ce que vous en mangez régulièrement, en tout cas en mangeant cuit? Les aliments fermentés cuits, c'est le pain, c'est les aliments fermentés, c'est le vin, la bière, le fromage. Donc on a des fromages crus, on a des fromages cuits. En alimentation vivante, on va utiliser un aliment qui est très connu, par exemple la choucroute, et on va faire de la lactofermentation. Donc ça, c'est cru aussi, en principe. Hein, on peut trouver de la choucroute pasteurisée. Donc dans ce cas, elle n'est plus crue, bien sûr. Et les bactéries sont mortes. Donc ça n'a pas d'intérêt, en tout cas par rapport aux bactéries. Après, on va avoir d'autres intérêts, mais pas cela. On va pouvoir avoir des apports avec des aliments fermentés comme le kéfir, qui est une boisson qui vient du Caucase et qui est très facile à faire et qu'on peut parfumer. Je vous en montrerai un petit peu tout à l'heure pendant les questions. Voilà à peu près pour l'apport bactérien, qui je dis vraiment, je le mets en premier parce que c'est vraiment essentiel. On peut pas être en bonne santé sans elle. On a bien sûr des vitamines. Les vitamines, ça, tout le monde sait que les vitamines sont pour la plupart détruites à la chaleur. Ça, c'est le cas seulement en fait pour ce qu'on appelle les vitamines thermosensibles. Elles sont détruites par la chaleur, les vitamines, les UV, les radiations, pareil. Et elles peuvent se perdre aussi dans les eaux de cuisson ou de lavage. Si vous laissez tremper trop longtemps vos légumes ou vos fruits avant de les consommer, vous allez perdre les vitamines, en tout cas les vitamines hydrosolubles, celles qui sont capables de se dissoudre dans l'eau. L'apport en vitamines, c'est la même chose à peu près que les bactéries, ça tombe bien. On va en trouver dans le cru, on va en trouver dans le fermenté. D'accord, il y a plus de vitamine C dans de la choucroute fermentée que dans du chou cru. C'est vraiment notable. Et on va en trouver aussi des vitamines dans les graines germées. Donc, cru, quand je dis cru, c'est fruits et légumes qui vont nous amener, évidemment, beaucoup de vitamines. Le troisième apport pour nos besoins vitaux, ce sont les pigments et les fibres. C'est pareil, c'est détruit par la chaleur, l'oxydation. Les pigments sont très sensibles à la chaleur. Les pigments, c'est tout ce qui est coloré. Et c'est souvent, ce sont de très puissants antioxydants. Donc on en a besoin, c'est un besoin vital, parce que pour nous l'oxygène est un poison. Nous avons besoin d'oxygène pour respirer, bien sûr, mais au niveau de nos cellules, l'oxygène produit de l'oxydation, et c'est l'oxydation qui produit le vieillissement et les maladies qui découlent de ce vieillissement cellulaire. Donc les pigments, on va les trouver dans les fruits et dans les légumes, et les pigments, c'est tout ce qui est coloré. Or, vous avez tous remarqué que quand vous faites cuire quelque chose de coloré, eh bien, ça perd sa couleur. D'accord ? Donc, si vous perdez la couleur en cuisant, c'est que vous perdez les antioxydants. Donc, ça, c'est, on peut pas, c'est pas possible de s'en passer. D'accord ? C'est très important pour notre santé. Ces pigments, on peut les trouver aussi donc, dans les fruits et légumes, dans les fleurs. Les fleurs sont très colorées. Les fleurs sont bourrées d'antioxydants. Donc c'est très important, c'est très beau hein, de mettre des fleurs dans sa nourriture, c'est très beau. Beaucoup de fleurs sont comestibles, en fait très très peu de fleurs sont toxiques. Il y en a quelques-unes, vous trouverez ça dans plein de sources. Et puis le dernier élément qui est noté, c'est la spiruline. Je ferai quelques mots sur la spiruline après. Donc la spiruline, c'est extrêmement riche en pigments. De toutes sortes, tous les pigments du spectre sont représentés dans la spiruline, hein. C'est 14 pigments qu'il y a dans la spiruline, donc elle est verte mais elle est orange, rouge, elle est bleue, c'est vraiment une mine par rapport à beaucoup de choses. Et puis après, bon, les trois qui sont en bas, les trois macromolécules, lipides, protides, glucides, ça tout le monde sait qu'on a besoin de lipides, protides, glucides. C'est exactement comme pour le reste. Ils sont sensibles à la chaleur, l'oxydation, les UV, les radiations ionisantes. Je vais détailler un tout petit peu ce qui se passe avec les lipides quand on les cuit. Vous avez tous entendu parler de lipides saturés et insaturés. Et on vous dit à tous que pour votre santé, vous devez manger des acides gras insaturés. On vous parle d'oméga 3, d'oméga 6. Alors, ces oméga 3, oméga 6 sont des positions. On ne va pas entrer dans ces détails-là. C'est juste pour vous dire que ce sont des positions. C'est des positions d'insaturation. Ça veut dire que à un endroit de la chaîne carbonée, donc un lipide, c'est une chaîne carbonée, c'est une suite de carbone, qui est plus ou moins associée avec des hydrogènes. Quand on est insaturé, ça veut dire qu'il y a moins d'hydrogène, d'accord ? Et dans la nature, l'insaturation, donc cette forme du lipide, elle a une forme coudée.
Comme ceci.
On appelle ça une forme cis, C-I-S. C'est noté, mais c'est un petit peu petit. Alors, quand je cuis, quand je chauffe, je donne de l'énergie sous forme de chaleur, je modifie les liaisons. Et dans le cas des acides gras insaturés, qui sont très utiles à mes membranes cellulaires, eh bien, je crée des acides gras trans. Alors, vous avez tous entendu parler des acides gras trans, parce que c'est un poison. Et quand je cuis, notamment les produits carnés, mais aussi des graisses végétales, qui sont des graisses insaturées, eh bien, je produis des acides gras trans. Alors, au-delà du mot, ce que ça fait, vous avez la forme qui est dessinée. Je passe d'une forme coudée, qui a une certaine souplesse, à une forme droite, qui est rigide. Pour mes membranes cellulaires, ça fait toute la différence. Dans le premier cas, j'ai des membranes souples, qui sont capables de s'adapter et de bien communiquer avec l'extérieur. Et dans le deuxième cas, j'ai des membranes rigides, qui ont perdu la capacité de répondre aux besoins de la cellule. Donc c'est vraiment très important. Je me retrouve en fait quand je cuis avec la même chose qu'avec des graisses saturées. Et les graisses saturées, vous l'avez peut-être appris à un moment ou à un autre, on les trouve principalement dans la filière animale. Alors que les graisses insaturées, on va les trouver, en tout cas filière animale, viande, les graisses insaturées, on va les trouver dans les graines ou aussi dans certains poissons. Et j'expliquerai après pourquoi je privilégie pas cette origine. Dans la dernière partie du tableau, j'ai noté juste des molécules, donc des noms de molécules qui sont produites quand je chauffe des protéines avec des glucides. Tout ça, c'est toujours avec la chaleur. Quand je chauffe un mélange protides glucides, c'est n'importe quel gâteau, du pain, un gratin, du gruyère, sur des pommes de terre, ça c'est des protides avec des glucides, eh bien vous observez quand vous le mettez au four un brunissement. Ça brunit et vous appelez ça, ça gratine et ça a l'air plutôt bon. Eh bien ce gratiné, ce plutôt bon, ou la couleur de la croûte du pain, ça porte un nom en chimie, on appelle ça des molécules de Maillard. Le brunissement, ce sont des molécules secondaires qui se produisent à la rencontre protides-glucides en présence de chaleur. Et ces molécules qui sont notées ici en rouge, dans le cadre rouge, sont très toxiques pour les cellules, très toxiques pour les bactéries. Et on les retrouve principalement sur les viandes, les grillades, les fritures, les gratins, les pâtisseries, les viennoiseries ou les biscuits ou bien d'autres choses encore. Mais ça, c'est ce qui se passe à la cuisson. D'accord ? Donc, on voit dans ce petit résumé que ça n'a pas l'air d'être très, très bon de cuire ces aliments. On a d'une part des pertes et d'autre part, on produit des molécules qui ne sont pas vraiment de nos amis et qui vont entraîner de l'inflammation, comme on a vu tout à l'heure. Ici, j'ai voulu juste vous présenter pourquoi je pense que l'élevage et le fait de consommer de la viande et des produits issus de la filière animale, ce n'est pas un bon choix, ni pour la planète, ni pour notre système digestif, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs raisons. Bien sûr, il y a les violences et les souffrances qui sont faites aux animaux. Il y a les productions de gaz à effet de serre, comme le méthane, comme le protoxyde d'azote ou l'ammoniac. Il y a ce dont je viens de parler, donc des acides gras qui, quand on va les cuire, vont se transformer en trans ou bien, pour la viande, beaucoup d'acides gras saturés. Il y a le fait que nous utilisons dans une agriculture qui est plus que polluante beaucoup d'antibiotiques dans la filière animale. Donc en France, on produit par an, on consomme par an 2 400 000 kilos d'antibiotiques, dont la moitié est destinée à l'élevage animal. Ces antibiotiques, bien sûr, nous les consommons en mangeant les produits animaux, que ce soit la viande, bien sûr, mais encore plus le lait ou encore plus le beurre, les fromages. C'est parce que les molécules, des grosses molécules comme les antibiotiques ou d'autres molécules, d'autres xénobiotiques vont se retrouver dans les graisses. Par rapport à toujours aux antibiotiques, je trouve qu'il est important de savoir donc que à peu près un kilo d'antibiotiques va nécessiter quelques 4 millions de litres d'eau pour être produit. Donc quand je consomme ce genre directement ou indirectement, je vais aussi évidemment participer à cette dépense d'eau totalement inutile. Ici, sur ces beaux chevaux sauvages, sont écrits les millions de tonnes de viande consommées en 2000 et avec la prospective pour 2050. Donc, c'est des chiffres qui affolent, n'est-ce pas ? C'est pas du tout soutenable quand on sait que la majorité des terres sont dédiées à l'élevage, quand on sait que, parce qu'il faut, bien sûr mettre les animaux, mais il faut bien sûr après nourrir ces animaux. Donc il faut faire des cultures pour ces animaux. 80% à peu près des céréales qui sont produites sont pour la filière animale. Donc tout ça prête à réflexion. La filière animale met la biodiversité en danger. En 1850, il y avait sur cette magnifique planète à peu près 98% d'animaux sauvages et 2% l'homme et ses animaux d'élevage. Aujourd'hui, on a 98% pour l'homme et ses animaux d'élevage en surface de terre et 2% pour les animaux sauvages. Donc, je crois que tous ces chiffres invitent quand même à la réflexion. Et après, pourquoi pas manger de poisson? Parce que dans la mer, bien sûr, vous savez qu'on a beaucoup de polluants. Et puis parce que je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc, voilà. Donc, voilà à peu près ce que je voulais vous présenter par rapport à ce qu'il faudrait peut-être pas faire pour les animaux. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous présenter un petit peu la spiruline. Alors, très brièvement, voilà une culture de spiruline de taille moyenne. C'est une culture qui est dans la région d'où je viens, donc dans les Pyrénées. Elle fait 250 mètres carrés. Donc, c'est une petite production paysanne. Pour la spiruline... La spiruline, elle bat un record incroyable au niveau des protéines. C'est 65% de protéines. À titre de comparaison, la meilleure viande, si je peux parler comme ça, c'est à peu près 20% et pas plus. Les œufs, c'est 12% de protéines, parce qu'on nous dit beaucoup de manger de la viande pour avoir des protéines, n'est-ce pas ? Donc, si vous voulez vraiment des protéines et des protéines de qualité, vous ne les trouverez pas majoritairement dans la viande. Les lentilles, c'est 20% aussi. Donc, c'est aussi intéressant de manger des lentilles que de manger de la viande pour les protéines, en tout cas. La spiruline, c'est 500 fois plus riche en fer que la meilleure viande aussi. Par contre, la spiruline ne nécessite aucun médicament, aucun antibiotique, aucune hormone, vitamine, insecticide, fongicide, pesticide, herbicide. Elle est assez propre au niveau de sa culture et elle ne produit aucun gaz à effet de serre et elle est tellement propre qu'elle prend l'oxygène, elle prend le CO2 pardon, de l'air, puisque c'est une cyanobactérie photosynthétique, elle prend le CO2 de l'air et elle relargue de l'oxygène, donc elle a vraiment un rôle de nettoyant. Et juste parce que vraiment, je pense que c'est important, elle est donc, ça j'ai dit tout à l'heure, très riche en antioxydants et en vitamines aussi, même si elle n'a pas de vitamine C. Et ce qui est très important, je pense, c'est que un mètre carré suffit pour nourrir une personne. Donc là, on est de très 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 loin, mieux placé que n'importe quelle culture. J'aime beaucoup consommer la spiruline, à la fois sèche, comme elle est représentée ici, en petites paillettes, séchées à basse température, pour conserver toutes ses qualités nutritionnelles, mais aussi fraîches, parce que quand on a la chance d'habiter près d'une culture ou de produire soi-même, on peut consommer de la spiruline fraîche, et c'est vraiment délicieux. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez consommer en comprimé. Donc voilà un petit peu présenter la spiruline. Eh bien, j'ai fait, je pense, un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire sur manger cru et le rapport que ça peut avoir, manger cru et végétal, et avec le rapport avec l'environnement. Donc, il suffit d'avoir des légumes et, pour moi, de la spiruline. Et après, ben voilà, comme on a eu tout à l'heure le côté négatif, eh bien, les gens qui ont tenté l'expérience de manger cru et végétal décrivent tous la même chose. Ils sont en forme, ils sont joyeux, ils ont de l'énergie, ils ont une belle peau, ils ont des beaux cheveux, ils ont de la joie, ils se concentrent bien, l'esprit se clarifie et le système immunitaire et performant, ça veut dire qu'ils sont plus malades et en général, voilà, ça se passe plutôt bien. Même si on y reviendra au moment des questions, pour moi, c'est pas, il s'agit pas de vous dire vous devez vous mettre à manger cru et végétal comme ça du jour au lendemain brutalement, ça serait vraiment pas intelligent. Mais d'aller dans cette voie-là, d'aller fouiller, d'aller de plus en plus, de mettre de plus en plus de cru, de mettre de plus en plus de végétal, et vous verrez que votre santé s'améliorera et que petit à petit, vous serez convaincu de vous-même, vous expérimenterez par vous-même. Voilà, et je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions, donc... Voilà, merci beaucoup.
Un grand merci. Donc, il y a un micro-baladeur, c'est le mien, mais il ne demande qu'à se balader.
Bonjour, merci pour votre exposé. Que pensez-vous des céréales, notamment celles qui ne sont pas germées ?
Alors, donc, je ne sais pas si tout le monde a entendu. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je pense des céréales ? Personnellement, moi, je mange quelques céréales germées. Voilà. Ensuite, quand on ne cuit pas, si vous ne germez pas, je pense que c'est assez indigeste. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Non. Précisez votre question, peut-être.
Est-ce que vous mangez 100% cru? Ou par exemple, vous nous parliez des lentilles tout à l'heure. Donc j'imagine que vous les mangez peut-être pas crues.
Si, si, je mange des lentilles crues et germées. C'est d'accord. Très bon. Oui.
Donc moi, je pensais plus aux céréales non germées.
Quelles céréales, par exemple?
Toutes.
Toutes.
Ben, je ne sais pas, le riz, le quinoa.
Alors, quinoa n'est pas une céréale. Le riz, je ne mange pas de riz parce que c'est très compliqué de faire germer du riz. J'ai essayé, je fais tremper. Bon, voilà, c'est pas. En plus, dans la région où j'habite, c'est-à-dire les Pyrénées, il n'y a pas de riz qui pousse. Donc, ça résout le problème pour moi parce que j'aime bien manger principalement les choses qui poussent là où j'habite, même si je mange pas que des choses qui poussent dans les Pyrénées. Mais après, je peux consommer quelques céréales. Par exemple, j'aime bien le sarrasin. Voilà, parce que le sarrasin, il pousse pas très loin de chez moi. Et puis, il n'y a pas de gluten dans le sarrasin. Et c'est très, très, très facile de le manger cru parce que c'est une céréale très friable et qui a beaucoup de goût. Donc, je fais des gâteaux avec. Voilà. Voilà. Je vais...
Alors, moi, j'avais deux petites questions. La première, la spiruline, est-ce qu'on peut la trouver Est-ce que la spiruline, on peut la trouver fraîche dans les magasins bio ou est-ce qu'il faut à tout prix l'acheter dans un... Puisque moi, j'habite à Lyon, je ne sais pas où trouver de la spiruline fraîche si toutefois je voulais goûter. Et deuxième question, c'est au niveau des bactéries. Vous dites que les bactéries sont nos amis. Oui. Mais comme vous l'avez si bien fait remarquer, il y a des bactéries pathogènes, notamment dans certains fromages. Il peut y avoir de la listeria et aussi, j'ai entendu, il y a quelques années, il y a eu une polémique avec un empoisonnement aux graines germées. Donc, comment se prémunir de tout ça et voilà.
Alors, donc, il y a deux questions, si j'ai bien compris. La première question, c'est est-ce qu'on peut trouver de la spiruline bio dans les magasins fraîche dans les magasins bio? Alors... La première chose que je vais dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas de cahier des charges bio pour la spiruline. D'accord ? Il est en train d'être travaillé. Il a été soumis par la Fédération des spiruliniers de France. Mais pour l'instant, il n'y a pas de spiruline bio. Oui, je vais mettre le diaporama. Alors... Pour la première question, en magasin bio, vous allez avoir du mal à trouver. Mais par contre, vous allez trouver des fermes dans lesquelles vous pouvez aller acheter votre spiruline bio fraîche. Plus vous serez à demander de la spiruline bio fraîche, et plus ça changera. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur de vendre de la spiruline bio parce qu'ils ont peur qu'il y ait justement des bactéries pathogènes dedans. On leur fait peur, on fait peur à tout le monde. Et moi, ce que je vous dis, c'est que quand vous mangez un aliment... Vous avez parlé des fromages avec la listeria. Alors, effectivement, les toxico-infections qui pourront vous toucher sont principalement des toxico-infections qui viennent de produits carnés, de produits issus de la filière animale. Donc, les salmonelles, par exemple, dans les œufs ou les listeria. Ou les staphylocoques, ça c'est plutôt des choses qu'on va attraper dans la filière animale. C'est une raison de plus pour moi de ne pas manger de produits de cette filière-là. Dans le rôle que j'ai donné au début pour le microbiote, quand j'ai dit qu'il participait à l'immunité, en fait la règle est la suivante, c'est plus vous hébergez de bactéries, moins de bonnes bactéries, moins il y a de place pour les mauvaises bactéries. Elles vont passer chez vous, elles vont passer, mais elles ne feront que passer parce que le gîte et le couvert est déjà pris. Donc, si la place est déjà prise, elles peuvent rien contre vous. Alors...
Et du coup, par rapport aux graines germées, l'histoire qu'il y a eu...
Alors, l'histoire qu'il y a eu par rapport aux graines germées, je pense que c'est une toxi-infection médiatique. Je pense qu'on a voulu, à un moment donné, faire quelque chose. Il est possible que quelqu'un ait eu une infection avec un aliment, mais je doute beaucoup que les personnes n'aient mangé ce jour-là que des graines germées, premièrement. D'accord. Deuxièmement, il est possible effectivement qu'il y ait eu un lot. Tout est possible. Maintenant, sur la majorité de gens qui consomment des graines germées, c'est une seule histoire. Par contre, sur la majorité des gens qui mangent des steaks hachés, les histoires, il y en a beaucoup plus. Mais par contre, on n'en parle jamais de celles-là. Donc, pour moi, il faut quand même faire la part des choses. Et je ne pense pas qu'on soit malade avec du végétal. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Écoutez, je me lève hein, comme ça. Alors, je suis très contente de venir ici et de vous rencontrer parce que j'ai commencé à manger cru il y a 2 jours. Alors, je n'ai pas mangé tout cru d'un seul coup. Hein. Mais là, ça va tout de suite mieux, effectivement. Bah, j'étais sur Facebook, je suis en relation avec des gens que j'ai rencontrés dans mon entourage et qui m'ont dit un truc, Karine, qui m'ont dit qu'ils mangeaient cru. Et du coup, je me suis posé des questions et je suis en relation avec Facebook sur manger cru. Et ils disaient que justement, il y a des gens qui avaient guéri des cancers, par le manger cru, enfin plein de choses qui étaient guéries de beaucoup de maladies. Et moi, je sentais que dans mon intérieur, ça tournait pas rond, quoi. Je sentais des douleurs un peu diffuses, des trucs un peu bizarres. Et je me disais, si je continue comme ça, ça va pas aller, quoi. Donc, je me suis lancée et j'ai commencé à prendre un petit déjeuner cru. Donc, j'ai pris carottes, bananes, tout ce que j'avais sous la main. J'ai fait mon petit marché. Je suis allée au Lidl du coin. J'ai pris des trucs bio. C'était à côté, hein, j'avais pas, voilà. Après, je suis allée à l'eau vive. Enfin, bon, voilà, j'ai commencé. Et donc, je suis toute contente. J'ai quand même mangé une tartiflette il y a 2 jours, enfin, hier. Mais ce que je veux dire, c'est que j'y vais progressivement. On m'a dit.
Tartiflette crue, bien sûr.
Voilà, tartiflette crue. Non, mais ce qui est bien, c'est que je me fais plaisir parce qu'on m'a dit, faut faire ça progressivement, comme vous l'avez dit. Faut se faire plaisir. On est là pour se faire plaisir. Et c'est vrai que du coup, moi, j'y suis allée progressivement. Et je sens vraiment la différence dans mon corps. Je mange beaucoup de spiruline aussi. J'ai de la spiruline en poudre que j'achète à l'eau vive. Je mange de la spiruline pour les protéines, comme vous l'avez dit. Du son de blé aussi. Non, pas l'idée. Bon, voilà. Et par contre, moi, ma question, c'était qu'est-ce que vous pensez des déshydrateurs? Parce que j'ai acheté un déshydrateur tout à l'heure, donc j'espère que, que j'ai bien fait. J'étais peut-être un peu emballée, du coup. Alors, sinon, je le revends. Hein, si... Et je voulais savoir si quand on mange cru, quand on mange l'eau, est-ce qu'on peut manger du fromage de chèvre ou du fromage de chèvre? Parce que ma grand-mère a un super bon fromage de chèvre. Et si le lait est cru, c'est-à-dire si c'est fait avec du lait cru et non pas du lait cuit, c'est-à-dire voilà, si le lait n'est pas pasteurisé. Voilà.
Merci beaucoup. Merci du témoignage. Alors déjà, je voudrais dire quelques mots sur le fait de manger cru tout d'un coup et pourquoi c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable à mon avis parce que pour manger cru, il faut avoir des bactéries qui sont habituées à manger cru. Et donc, on va y aller tranquillement parce que on va ensemencer sa nouvelle flore avec des légumes qui sont eux-mêmes recouverts de bactéries. Vous allez manger, peut-être boire du kéfir, etc. Vous allez renouveler votre flore et vous allez avoir une flore compatible avec ce substrat, ces nouveaux substrats. Donc, si vous changez, voilà. Ensuite, si vous changez trop brutalement, elle ne sera pas adaptée, votre flore. Ensuite, une autre chose qui est importante, c'est que quand vous allez manger cru, vous allez manger beaucoup, notamment de chlorophylle. La chlorophylle va vous aider à détoxifier votre organisme. Donc, c'est important que tout ça se fasse tranquillement, doucement, parce qu'il va falloir... bien sûr, c'est bien de vider les poubelles, mais en fait, si jamais je ne sais pas quoi en faire, après, si je vide les poubelles au milieu de la chambre, c'est gênant. Donc là, je délocalise les poubelles en mangeant comme ça. Donc, il va falloir que je draine ces poubelles, que j'apprenne à les sortir. Et je vais faire ça tranquillement. Ensuite, est-ce que vous pouvez manger des produits à base de lait? Pour moi, c'est pas nécessaire. Donc, vous pouvez, dans la transition, en avoir envie. Il faut comprendre comment marche une envie. Une envie, c'est quand vous vous nourrissez, je l'ai dit tout à l'heure, vous nourrissez votre flore et vous nourrissez votre paroi intestinale. Eh bien, les bactéries qui sont à l'intérieur de vous, elles sont comme vous. Elles aiment manger certaines choses. Donc, quand vous leur donnez, par exemple, à manger des yaourts régulièrement, eh bien, vous nourrissez des bactéries à l'intérieur de vous. Vous avez des bactéries qui raffolent de yaourt. Donc, le jour où vous dites « je mange plus de yaourt », les bactéries qui sont à l'intérieur de vous, ça les rend dingues. Elles n'ont qu'une envie, c'est que vous mangiez un yaourt. Et elles vont vous pousser à aller jusqu'au rayon du supermarché pour aller manger un yaourt. D'accord ? J'ai expérimenté ça. Je sais vraiment qu'il y a vraiment une intelligence avec une très grande volonté à l'intérieur de notre système, de notre écosystème intestinal, qui nous amène à manger certaines choses, même si on sait qu'elles sont pas très bonnes. Donc il faut un temps, en fait, pour changer les goûts des bactéries. Ben, ça va dépendre, je pense, et de votre forme et des apports, combien... voilà, ça va dépendre de... Mais vous allez le sentir et petit à petit, vous aurez de moins en moins d'envie comme ça. Ça ne veut pas dire que vous allez manger tout le temps des choses tristes. Pas du tout, c'est pas du tout ça, parce que si on arrive à réparer, on va voir qu'il y a beaucoup de diversité. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est peut-être parce qu'il est tombé au début, non? Donc, et après, il y avait encore une question, c'était à propos du déshydrateur. Et à propos du déshydrateur, alors, je pense que manger cru et vivant, ça ne veut pas dire manger tout un tas de choses déshydratées. Donc, on va s'en servir tranquillement. Deuxièmement, si on déshydrate avec un déshydrateur électrique qui est alimenté avec de l'énergie classique, c'est-à-dire des centrales nucléaires, c'est pas une bonne idée pour la planète. Si tout le monde ici se met à acheter un déshydrateur et veut déshydrater 12 heures par jour en continu, c'est pas une bonne idée. C'est pas soutenable. Donc ensuite, quand c'est déshydraté, ça perd l'eau. Et pour moi, l'eau est très importante parce que il y a beaucoup de choses dans l'eau des légumes et dans l'eau des fruits, il y a beaucoup de choses. Donc je pense que c'est intéressant de manger déshydraté quand on a beaucoup de fruits, par exemple, et qu'on va vouloir les conserver, parce que c'est la saison des pommes et que vous avez un pommier, et bien, du coup, vous pouvez pas manger 3 tonnes de pommes d'un coup, donc c'est bien d'en déshydrater une partie. C'est bien aussi quand vous allez en montagne ou en balade, d'avoir des produits déshydratés, parce que c'est beaucoup plus facile à transporter les produits déshydratés, c'est sec et ça se conserve bien. Donc, je pense que c'est très intéressant. Ça permet aussi de donner plus de... d'élargir, en fait, votre proposition.
Bonsoir. Alors, je ne me lève pas parce que j'ai une grippe et je suis assez KO.
D'accord.
Mais j'avais deux questions. La première, c'était par rapport aux céréales. Est-ce que vous nous parleriez un petit peu des candidats albicans concernant les glucides, en particulier, si vous le voulez? Et puis, enfin, une question un peu moins marrante. À votre connaissance, y a-t-il des contre-indications à manger cru? J'ai vu passer une étude qui aurait démontré que manger cru pouvait déminéraliser. Alors j'imagine qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu et que c'est peut-être pas juste le crudivorisme qui ferait ça, mais c'était savoir ce que vous aviez à nous dire sur le sujet.
D'accord, je vais essayer. Alors donc la première question concerne le candida albicans par rapport au sucre. Vous voudriez savoir et aux céréales, c'est bien ça? Peut-être qu'il faut lui laisser le micro parce que... le candida albicans, ce n'est pas une bactérie. Le candida albicans, c'est une levure qui habite aussi chez nous. Elle y est bien en général. Mais à un moment donné, quand je fais des choses qui nuisent à mes bactéries et qui, comme par exemple, augmenter l'acidité de mon milieu ou donner trop de sucre, ou bien quand je prends des antibiotiques et que je tue tout le monde, parce que l'antibiotique, lui, il ne vous demande pas si vous êtes une bonne ou une mauvaise bactérie, il vous demande juste si vous êtes une bactérie, donc il tue toutes les bactéries sans discernement. Donc après une prise d'antibiotiques, par exemple, je vais laisser la place aux levures, parce que les levures, elles, qui sont des champignons, elles ne sont pas sensibles aux antibiotiques, d'accord? C'est pas le même, même si elles se ressemblent extérieurement, on pourrait croire que ce sont les mêmes choses, les mêmes cellules, pas du tout. Les bactéries et les levures sont différentes. Candida albicans est une levure. De cette façon, elle résiste aux antibiotiques. Donc après une prise d'antibiotiques, il y a le gîte et le couvert sont vraiment très larges pour que les levures puissent se développer. Donc je vais avoir une recrudescence de candida albicans. Et qu'est-ce que je peux dire? Et aussi quand on a si j'ai une nourriture sucrée, plutôt sucrée ou plutôt acide, c'est un terrain qui lui correspond bien. Il va être très content, il va se développer. Quel est l'autre
Alors juste pour finir avec les candidats, on est d'accord que dans les céréales il y a des glucides?
On est d'accord que dans les céréales il y a des glucides, tout à fait.
D'accord, donc c'est un apport de sucre.
Mais il n'y a pas que des glucides.
Non,
il n'y a pas que des glucides dans les céréales. Il y a bien beaucoup de choses. Alors, pour les céréales, je l'ai dit déjà un petit peu tout à l'heure, on a aussi, surtout si on parle des céréales blé, orge et seigle, on a beaucoup de gliadine. Bon, il y a beaucoup de choses dans les céréales. Hein, donc, gliadine étant des protéines. Donc, on a des sucres, voilà. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question.
Non, c'est pas mal. Et la dernière, c'était quels sont, à votre connaissance, les effets secondaires d'une alimentation crudivore, en particulier au niveau d'une éventuelle déminéralisation. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou rien du tout ?
Alors, pour moi, manger cru ne va pas entraîner une déminéralisation. Ce qui pourrait entraîner, pour moi, une déminéralisation, c'est de manger... c'est les tanins qui peuvent engendrer la déminéralisation ou bien ce qu'on appelle l'acide phytique, les phytates qu'on va trouver dans les enveloppes des graines complètes, hein, par exemple, ou bien par exemple alors dans les tanins on a par exemple la théine ou la caféine qui vont ou on en a dans les vins, ça va entraîner une diminution de la fixation des minéraux, par exemple le fer sera moins assimilé. Voilà, à ma connaissance, ça peut entraîner la déminéralisation, mais dans le fait de manger cru, non, je pense pas. Je pense que le fait de manger cru, ça existe depuis bien plus longtemps que l'humain. Je pense que l'humain est le seul animal à cuire sa nourriture. Et ma foi, les animaux sauvages ont l'air d'aller plutôt bien. Il y a plein de maladies de civilisation qu'ils ne présentent pas. Ils n'ont pas de diabète, d'obésité, etc. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question.
Bien sûr. Alors juste pour préciser, les tanins, il y en a dans les légumes crus, en particulier les légumes colorés comme le vin ou les raisins, comme vous dites.
Alors, il y a des tanins, effectivement, dans certains légumes ou fruits, bien sûr. Hein, ouais. Bien sûr. Mais,
à des proportions raisonnables, on va dire.
Je pense.
Merci.
Je vous en prie, avec plaisir.
Bonjour. Alors, moi, j'ai une question, mais avant toute chose, j'aimerais donner mon témoignage parce que j'ai une maladie auto-immune. J'ai la paroi intestinale qui est poreuse et j'ai eu beaucoup de problèmes de santé et depuis le mois de mai l'année dernière, j'ai commencé à manger cru. Tout doucement, j'ai changé mes habitudes alimentaires et je me fais des jus de légumes verts. Je change tous les jours de légumes. Je mets de la pomme dedans, gingembre, enfin, du curcuma, tout ça. Et je peux dire que ça me reminéralise. J'avais des racines grises à la tête. J'ai des cheveux gris, hein, j'ai 53 ans. C'est normal. Mais mes cheveux...
C'est pas normal. Moi, j'ai 53 ans aussi et je fais pas de couleur à mes cheveux.
Alors, vous me rassurez parce que j'ai arrêté les couleurs. Là, j'ai des soucis de santé, de stress. Et c'est revenu et j'ai eu un peu peur. Donc, disons que c'est pour dire que mon corps se reminéralise. Et qu'en fait, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, le cru, on ne peut pas manquer de quoi que ce soit. La seule chose, c'est qu'il faut manger des graines germées. Il ne faut pas manger que du légume. Il faut aussi manger des céréales germées. C'est tout un ensemble de choses.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Voilà.
Alors, je vous remercie pour le témoignage. Je profite quand même de votre témoignage pour dire que je pense qu'il faut consommer des jus, mais avec prudence. D'accord. Et parcimonie. Parce que quand vous prenez un jus, vous enlevez les fibres.
Mais je ne bois pas que du jus, je mange aussi mes crudités.
Non, mais je profite en fait de votre témoignage. Parce que, évidemment, on pourrait avoir comme idée que d'en manger des jus, on a des extracteurs très performants aujourd'hui. Le fait de manger des jus va nous permettre d'avoir une alimentation très saine. Et je pense que c'est assez dangereux de manger des jus seulement parce que vous allez enlever les fibres. Je vais dire pourquoi on en a besoin. Mais aussi parce que vous allez consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes. Pour avoir un petit verre de jus, il faut beaucoup de légumes et de fruits. Donc beaucoup plus que vous ne consommeriez si vous les croquiez. Vous n'allez pas mâcher. Voilà, et pour moi, la mastication, c'est quelque chose qui est absolument gratuit et que vous pouvez tous faire maintenant que vous allez comprendre. C'est vraiment mastiquer, c'est vraiment ce qui va porter votre santé. Mastiquer, ça détend. Les vendeurs de chewing-gum le savent, c'est-à-dire que les gens qui sont stressés, ils consomment du chewing-gum. Par contre, le fait de manger des chewing-gums, ça va stimuler votre production d'enzymes, etc. Et c'est pas du tout bon de manger du chewing-gum. Mais par contre, c'est très bon de mâcher. On a des dents. C'est pas juste pour sourire. C'est vraiment pour mâcher que nous avons des dents. Et le fait de mâcher va permettre de mélanger les aliments avec la salive. On le fait moins dans les jus. Et ça va renseigner le cerveau sur ce que vous consommez. Et il va savoir vous dire si vous en avez assez. Tandis que quand vous passez vos jus à l'extracteur et que vous avalez, c'est très bon. Moi, j'adore aussi. Je mets du gingembre, je mets du curcuma, qui sont de très, très bons aliments, des aliments qui nous soignent. Le curcuma est un très, très bon anti-inflammatoire. Donc, c'est très bon pour une muqueuse qui est abîmée. Mais attention à déjà privilégier des jus verts plutôt, et puis ensuite prendre un jus comme on prendrait dans un petit déjeuner classique, c'est-à-dire on va avoir aussi autre chose à côté, c'est-à-dire que vous pouvez manger une partie en jus,
voilà,
mais l'autre partie à croquer. Voilà.
Et bien mâcher le jus. Je dois dire que je fais tout ça, donc j'apprends un petit à petit. Ce que vous dites, c'est ce que j'ai appris aussi, alors petit à petit je fais. Et je dois dire que... ayant une fibromyalgie, ben petit à petit mes douleurs, bon, je consomme plus ni de lactose ni de gluten, et mes douleurs ont vraiment se sont vraiment amoindries, quoi. J'en ai presque plus, et voilà, je continue. Et il y a une dame qui me posait une question. Est-ce que je peux lui passer le micro?
Oui, moi on me dit que tous les légumes ne sont pas bons à consommer crus. Par exemple les petits pois, est-ce que il faut les consommer avec modération ou pas du tout?
Alors, moi, je pense que quand vous le consommez, le légume, vous allez ressentir si ce légume-là, vous avez envie d'en manger ou pas. Donc, les petits pois, vous pouvez en croquer. J'ai toujours fait ça quand j'étais enfant dans le jardin. On croque des petits pois crus. C'est très bon. Vous pouvez même manger la gousse quand ils sont tout petits. Voilà. Mais vous n'allez pas manger un kilo de petits pois. Vous allez manger quelques petits pois. C'est pareil pour les haricots verts. Les haricots verts, vous allez manger quelques haricots verts. Puis après, vous n'en avez plus envie. C'est pareil pour les choux de Bruxelles. C'est pareil pour les brocolis. Donc, vous pouvez manger, je pense, tout. Mais il y a des choses qui vont vous attirer plus ou moins. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, il faut écouter ce que vous dit votre envie. Voilà.
Oui. Peut-être pas la pomme de terre, quand même, si.
Alors, bon, la pomme de terre, si vous avez déjà croqué une pomme de terre crue.
J'aime bien. Oui, j'aime bien.
Bon, mais si vous aimez bien, mangez-la. Voilà. D'accord. mais... A priori, entre une pomme de terre et une pomme, tout court, c'est peut-être plus goûteux de manger une pomme, c'est plus juteux, ça, voilà. Mais si vous aimez bien manger une pomme de terre, voilà. Dans la cure Bruss, qui est une cure pour les personnes qui ont des problèmes de santé, on met la pomme de terre dans le jus. Donc, c'est pas forcément quelque chose de toxique. Mais par contre, c'est pas quelque chose de très bon. Voilà. Donc... Je pense pas que vous, peut-être vous en mangerez une, vous en mangerez deux, mais vous mangerez pas un kilo de pommes de terre comme ça, quoi. Voilà. D'accord. Voilà.
Merci. s'il vous plaît, je suis aussi persuadée qu'il faut manger cru. Par contre, Pascal Pic dit que l'intelligence de l'homme est arrivée avec le feu et que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la viande qu'il faut manger cuite, puisqu'on peut la manger crue. Mais c'est plutôt les légumes, et en particulier les légumineuses, donc les petits pois.
Alors si je peux me permettre, qu'est-ce que vous appelez l'intelligence? Parce que moi, autour de moi, je ne vois pas trop d'intelligence.
Ah oh, bah quand même.
Non, je pense qu'on a inventé beaucoup de choses qui sont des armes de destruction, mais je ne pense pas, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui signifie l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est quand je vois un bébé qui vient au monde dans un état de perfection absolue au niveau de sa physiologie. Ça, je trouve que c'est parfaitement intelligent. Je pense que quand je vois une rose, quand je vois des fleurs, quand je vois comment la nature s'est organisée, ça, je pense que c'est extrêmement intelligent. Par contre, je pense que pour moi, aujourd'hui, l'homme fait preuve de beaucoup de bêtises. Et...
Oui, mais beaucoup ne mangent pas cru. Hein.
c'est tout à fait vrai. Donc, si la cuisson avait amené l'intelligence, je pense qu'on l'observerait vraiment alentour. Je ne sais pas qui est Pascal Pic. Je respecte tout à fait...
C'est un grand monsieur, quand même.
Hein, je respecte tout à fait. Un anthropologue. D'accord. Eh bien, je respecte tout à fait cette vision. Ah ben voilà, c'est revenu. Ah, oh, trop bien. Alors j'ai pas, en plus j'ai pas la même chose là que là. Alors je ne sais pas ce que c'est ça. Donc on va peut-être pas laisser. Il peut m'arriver d'avoir des choses qui sont pas pour Primevert. Donc je ne vis pas que pour Primevert. Donc voilà, pour moi, le fait de manger cuit est arrivé à un moment donné dans l'évolution. C'est ma façon de voir les choses. Pour moi, c'est arrivé par nécessité, parce qu'il y avait des glaciations et parce que nous nous sommes mis à manger. D'abord, on avait froid. Parce que je pense que quand il fait chaud et quand on est en Afrique qui fait chaud et qu'il y a des fruits qui pendent dans les arbres, on va pas, voilà, on peut très bien se nourrir comme ça. On peut se nourrir de pousses. Par contre, quand on traverse des glaciations, il reste plus grand chose au niveau végétal, donc on va avoir une alimentation davantage carnée et on va avoir envie évidemment de se couvrir avec des peaux de bêtes et on va avoir envie de se réchauffer avec le feu et de manger cuit. Oui, je pense que par nécessité, nous pouvons survivre en mangeant de la viande et nous pouvons la manger cuite aussi parce que c'est beaucoup plus facile de manger de la viande. Parce que quand vous mangez un tartare, il est cru, mais il y a la moulinette, vous l'avez passé au robot avant. Mais si vous devez manger un steak cru avec les dents, c'est beaucoup plus difficile que de croquer dans une pomme. Donc voilà, pour toutes ces raisons. Voilà. Et je pense qu'au début, il y a d'autres anthropologues qui disent aussi que, vu qu'on n'est pas quand même très équipé, on n'est pas comme des guépards, on n'est pas des carnivores, on ne court pas aussi vite que le lion, on n'a pas des grandes griffes, on n'a pas des grandes dents, et on a un système digestif plutôt long, qui n'est pas un système digestif de carnassier. Certains anthropologues disent qu'au début, nous avons très certainement mangé des cadavres, notamment des os, parce qu'en fait, on arrivait après les animaux qui avaient mangé tout ce qu'il y avait sur le cadavre. Et donc, ce qui nous restait à nous, c'était de manger ce qu'il y avait à l'intérieur des os, donc des moelles. Il est possible qu'il y ait, pour certains en tout cas, un lien avec un certain développement du cerveau. Bon, je pense que tout ça sont des hypothèses et que on peut les prendre comme hypothèses. Voilà.
Oui, je voulais juste te dire, enfin, je sais pas si je peux me permettre, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à l'intelligence, anthropologie, tout ça. Moi, je suis devenue chrétienne il y a 4 ans, et ce que le fait que les gens, les humains mangent des fruits et des légumes, c'est marqué dans la Bible, en fait. Donc, c'est pour ça que quelque part, moi, je me retrouve vraiment là-dedans dans le fait de manger des fruits et des légumes. C'est marqué que dans les derniers temps, les lions ne mangeront plus les agneaux, que voilà. Voilà, je voulais juste me faire une petite parenthèse, comme on dit dans le truc anthropologie. Voilà.
Oui, excusez-moi, je voulais vous demander pour des enfants en bas âge s'il y avait des, pas des contre-indications, mais des choses un peu à éviter dans le cru. Vers 2 ans, quoi.
Est-ce qu'il y a des contre-indications dans le cru pour un jeune enfant? Moi, je pense que s'il est prêt à accepter, non, il n'y a pas de contre-indication. Au contraire, plus il commencera tôt à manger instinctivement des choses le plus simple possible, et mieux ça sera pour sa santé et le plus simple ça sera pour sa vie. Hein, parce que quand on mange vraiment cru, c'est-à-dire à la croque, des choses de saison qui sont là et sans mélanger, parce que plus vous mangez une alimentation pur, c'est-à-dire à un moment donné, vous mangez des pommes, vous mangez 3 pommes, ça y est, vous êtes calé, vous n'avez plus envie de manger autre chose. Et puis, elles vont être assez vite digérées. Et puis, vous allez manger peut-être des kakis parce que c'est la même période. Et puis, pareil, vous allez manger 2-3 kakis. Mais je trouve que c'est plus souhaitable de manger 2-3 kakis que de manger un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, qui va faire beaucoup, qui va nécessiter beaucoup de choses au niveau de votre digestion. Donc, avec l'enfant, bien, je mettrai toujours à disposition. Et puis, si vous mangez comme ça, il va avoir envie de manger comme vous, bien sûr. Et puis petit à petit, voilà, ça s'installe. Ça, c'est tout simple en fait. L'enfant, c'est bien plus facile de faire adopter une alimentation crue et végétale à un enfant qu'à un adulte. C'est bien plus difficile. Voilà.
Oui, je vous écoute. Bonjour. Alors nous, on mange végétal depuis 2 ans et on a commencé à manger cru depuis quelques mois. Et en fait, on se demande si, par rapport au budget, parce que manger uniquement des fruits et légumes, des graines germées, etc., ça a un certain coût. Surtout quand on ne peut pas produire soi-même ces fruits et légumes. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'une alimentation crue, c'est pas réservé à... à des gens qui ont de l'argent et quelqu'un qui serait par exemple qui toucherait des minima sociaux pourrait pas se diriger vers une alimentation crue.
Alors merci, c'est une question importante effectivement. Pour moi, je pense que les produits qui coûtent le plus cher en général, c'est quand même la viande, le fromage, les produits laitiers, les yaourts, les produits transformés. Tout ça coûte très cher. Si vous mangez cru, de saison, local, je pense que c'est vraiment moins cher. Bio, oui, pour moi, ça va de soi. Bio, je ne veux pas choquer, mais j'inviterai davantage à manger naturel, c'est-à-dire des choses qui sont pas traitées. Voilà. Pour moi, ça, c'est vers ça que je vais. Vous pouvez aussi faire beaucoup de cueillettes, hein, d'accord? Donc, vous habitez en France, vous avez beaucoup de chance, il y a beaucoup d'orties. D'accord? Tout le monde lutte contre les orties parce que les orties, c'est super riche en protéines, c'est super riche en chlorophylle. Après la spiruline, c'est le plus riche, l'ortie. Donc, l'ortie, vous pouvez la manger de plein de façons. Je fais des pestos d'ortie. Je fais des... Aujourd'hui, je ne les cuis plus, mais pendant longtemps, je cuisais. Mais je pense qu'il vaut mieux manger une soupe d'ortie que de manger beaucoup de choses, quand même. Hein. Vous pouvez faire des jus si vous avez un extracteur. Et puis, si vous avez une moulinette, vous pouvez mettre vos orties dans tout ce que vous voulez. C'est parfait. C'est extrêmement riche et ça va vous amener beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça ne coûte rien. Quand vous mangez cru et que vous mastiquez, vous allez manger beaucoup moins, d'accord? Donc, si vous voulez réduire votre coût, le coût de votre alimentation, c'est vraiment une bonne pratique de faire ça, c'est-à-dire d'être vraiment posé quand vous mangez, de mastiquer, et au bout d'un moment, vous en avez marre, parce que pour moi, le dicton, on ne parle pas la bouche pleine, ça veut dire que quand je mange, je suis centrée sur ce que je fais, je ne suis pas en train de me décentrer en parlant avec le voisin, je consacre mon attention au fait à ce que je suis en train de faire, je mange. Parce que c'est très important. Et donc, si je pratique ça, c'est-à-dire si je mâche et que je mange des légumes croquants et pas bouillis, pas passés, enfin bouillis en bouillie à l'extracteur, ou vraiment si je mâche, au bout d'un moment, j'en ai assez. J'ai plus envie de mâcher. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. En fonction des endroits où j'ai vécu, je vais tout le temps au marché. Moi, j'achète ma nourriture au marché chez des gens où je cueille, chez des gens qui cultivent proprement. Donc, ça peut être en biodynamie, ça peut être en agriculture bio ou bien dans des jardins pas traités parce qu'il y a beaucoup d'endroits. Ou bien je cultive moi-même aussi. Ça m'est arrivé d'avoir des jardins. Je pense que j'ai un coût moins cher en faisant ça. Bon, bien sûr, si je vais à la Biocoop et que je veux acheter des produits transformés ou des produits qui viennent de loin, comme des noix de cajou ou des amandes ou des choses comme ça, là, c'est sûr que mon coût va être vraiment très, très augmenté. Bon, je pense que c'est ça. On verra s'il y a peut-être une surprise au milieu.
Ah oui.
Moi, je prends des risques.
Bonjour.
Alors, qui part ?
Je suis là. Moi, j'ai un conseil à demander. En fait, je mange cru en alternance. J'ai commencé par une cure de raisin et puis après, j'ai mangé cru pour me réadapter. Et puis maintenant, je fais un peu de tout. Par contre, faire une salade, moi, je râpe les légumes pour les manger à midi. Et les râper le matin avant de partir au boulot, vraiment, c'est contraignant. Donc, j'aurais voulu savoir si le préparer le soir... Ça perdait beaucoup en vitamines, le fait de le garder toute la nuit, puis jusqu'au repas de midi lendemain.
Tu râpes quoi, par exemple?
Je râpe des betteraves, des carottes, des navets, des radis noirs, du chou.
Tu râpes tous les légumes,
le céleri,
en fait.
Oui, avec une grosse râpe pour le mâcher. Pour mâcher, donc je râpe, oui. Voilà, alors avant, je le faisais le matin, mais alors vraiment, c'est...
Alors plus on laisse au contact avec l'air, plus on ouvre en fait, plus on va faire de l'oxydation. Donc nous on consomme et comme j'ai dit tout à l'heure, on veut avoir quelque chose qui n'est pas oxydé parce que notre métabolisme produit déjà de l'oxydation. Donc rajouter de l'oxydation n'est pas une bonne solution. Maintenant, je pense que pour moi, il n'y aura pas vraiment. S'il n'y a pas de modification de couleur, de forme, tu peux te baser là-dessus. Voilà, on peut mettre du jus de citron pour empêcher l'oxydation.
Ouais, c'est pas très agréable, en fait, le jus de citron.
Pardon ?
C'est pas très agréable sur les crudités, le jus de citron.
Bon, on peut mettre du jus de citron, mais voilà. Mais c'est vrai que...
Et si on met de l'huile d'olive ?
Et on peut mettre de l'huile d'olive
Est-ce
aussi.
Est-ce que ça peut freiner l'oxydation ?
Elle va s'oxyder, elle aussi. Tout ce qui est en contact avec l'air s'oxyde. Ah. Donc après, il est de toute façon... Enfin, atteindre l'objectif de la zéro nuisance, c'est pas possible, c'est pas faisable. Donc on va tendre vers les choses. Donc si c'est plus confortable pour vous de râper les légumes la veille... Moi, je dis, vaut mieux que vous râpiez vos légumes, les légumes la veille que d'aller acheter un truc au coin de la rue. Voilà. Voilà, vous faites comme vous pouvez. Maintenant, vous allez quand même avoir des vitamines, vous allez quand même avoir tout ce qu'il faut dedans. Ça ne disparaît pas non plus. Vous le voyez bien, évidemment, à la couleur. Si ça ne change pas de couleur, si ça ne change pas de forme, bon, fiez-vous à ça. Fiez-vous vraiment à ça. Voilà. Avec plaisir.
J'ai posé une question tout à l'heure, voilà. J'avais une autre question, puisque on parlait tout à l'heure des jus. Vous disiez donc que le problème des jus, c'est que on perdait les fibres. Il paraît qu'on peut garder les fibres qui ressortent de l'extracteur pour en faire des tartelettes, des choses comme ça. Est-ce que il faut les réhydrater avec de l'eau, ou est-ce qu'on les met comme ça dans les tartes et...
Alors moi, j'utilise effectivement des choses avec le déshydrateur, des fibres qui sortent de l'extracteur et que je vais intégrer dans des pâtés ou dans des tartes, voilà, plein de choses. Tout à fait, on peut s'en servir. Alors on va pas du tout si on doit les déshydrater après, on va pas les hydrater, on va pas remettre de l'eau, on va utiliser ces fibres, on va être très content de les avoir, mais en général, on produit beaucoup de fibres avec le déshydrateur, avec l'extracteur, pardon, et rares sont les gens qui vont les réutiliser, les valoriser, donc elles vont finir souvent au compost plutôt que voilà.
C'est même pas une question, c'est pour répondre à la dame. Pour conserver les aliments, pour madame, vous avez des boîtes qu'on met sous vide, vous pompez l'air, et ça permet de conserver vraiment les aliments très, 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 très longtemps. Alors peut-être pas toutes les vitamines, mais vraiment, on conserve beaucoup.
Oui, donc... D'accord. Je voulais juste... Justement, on va peut-être passer à la pratique. Donc du coup, comment on fait pour passer à manger cru? Comment ça se passe? Si vous avez une manière de faire, ou est-ce qu'on fait ça un peu au pif, suivant ses envies, ou... Parce que là, je pense qu'il y a des gens qui ont envie de passer un petit peu à l'action. Et puis comme moi, j'en suis dedans aussi. Voilà. Merci.
Alors, donc, moi, je propose des formations parce que je pense qu'il faut réapprendre à se nourrir. On peut réapprendre tout seul, bien sûr, mais il y a aussi des gens qui sont là pour nous guider. Donc, moi, je propose ça. Je propose de guider les gens qui ont envie de changer leur façon de se nourrir. Donc, je propose deux types de formations. J'en propose dans mon lieu qu'on a vu passer tout à l'heure, qui s'appelle le Crudilab à Bagnères-de-Bigorre. Mais ça, c'est un petit peu loin pour vous. Puis, je propose d'autres formations... au refuge du col de Sarenne qui se trouve au-dessus de l'Alpe d'Huez. Donc là, c'est des formations sur quelques jours. En général, c'est bien parce que ça permet de bien poser les choses. On se retrouve pendant 4 jours, on a des bases. J'essaie d'apprendre à faire une cuisine simple qu'on peut reproduire à la maison. Et de répondre voilà et on fait un petit peu le tour des choses, c'est-à-dire on va faire à la fois des fermentations, parce qu'on l'a bien compris, ce qui est très important, c'est d'avoir une flore équilibrée, puis on va apprendre à faire des choses, des fromages, parce que pourquoi tout le monde aime le fromage, donc on va faire du fromage végétal, des yaourts végétaux, des crèmes végétales. Mais après, évidemment, j'apprends aussi qu'on va pas se nourrir tous les jours avec du yaourt, des crèmes, parce que sinon on va pas être en bonne santé non plus. Plus on se nourrira. Ça, ce sont des cuirs, voilà. On peut faire ça avec le déshydrateur. Donc ça, c'est des cuirs faits à base de champignons. Là-bas, c'est un cuir fait avec du poivron. Ça, ce sont des crackers qui ont un petit goût de curry, un petit goût d'Inde. Bon, c'est une nourriture qui est très goûteuse, qui est très colorée, qui est très variée. Ces petites bulles, c'est du kéfir. Donc j'avais dit tout à l'heure qu'on verrait ça. Ça s'obtient, c'est du kéfir de fruits. Donc on peut faire du kéfir de lait, mais ça c'est du kéfir de fruits. Voilà, ça ce sont des crackers un peu à l'italienne avec des tomates séchées et des olives, un petit goût un petit peu relevé. Ça, c'est un fromage végétal à base de peut-être cajou ou tournesol. J'aime bien faire du fromage végétal avec du tournesol aussi. Bon, voilà, après, des propositions de salades vertes dans lesquelles je peux mettre des fruits, des fleurs. Vous allez voir tout ça. Des pizzas aussi. Bon, ça, c'est des noix de cajou complètes. On peut faire des pizzas, on peut faire des bûches. Pour Noël, j'ai fait des bûches qui sont vraiment comme des bûches de pâtisserie. Mais tout ça est cru et sans œufs et sans lait et sans sucre. Donc, c'est quand même très intéressant parce que du coup, vous pouvez manger votre petite part de bûche et être quand même en bonne santé. Voilà, donc... Je pense qu'effectivement, il faut y aller un petit peu tranquillement, hein, que on va apprendre les choses et on va, pendant cette période de transition, voilà, ça c'est une bûche, un bout de bûche. Pendant cette période de transition, on va apprendre à changer les habitudes. C'est ça surtout, hein, d'accord. Il s'agit de changer les habitudes. Voilà. Donc vous avez pour moi, pour voir ce que je fais en tout cas, il y a un site internet qui s'appelle Crudilove et vous pourrez aller voir les formations. Et là, ben voilà, ça c'est par exemple un buffet. On peut absolument tout faire avec l'alimentation crue. Hein, voilà, c'est pas restrictif, c'est pas quelque chose de triste qui va rester juste à la maison et que je vais faire dans mon coin. Bien au contraire. Voilà, ça c'est mon petit labo à Bagnères. Peut-être encore une question.
Ben, je sais. Ouais. Du coup, justement, ce que vous venez de dire, ça rejoint un peu ce que je me demandais, c'est-à-dire que moi, je mange pas cru, mais je suis intéressée par ça et je me demande au niveau de la vie sociale quelle incidence ça a et aussi si qu'est-ce qui se passe si on fait des écarts. Quand on est bien installé dans un régime où on mange quasiment plus, enfin que cru, est-ce qu'on peut se permettre de faire une tartiflette de manière impromptue et quelles sont les conséquences
Alors, merci de la question. C'est important, je pense, de réfléchir à ça, effectivement. Est-ce que ça coupe au niveau de la sociabilité? Je pense pas. Je pense que partout où vous irez, vous pourrez trouver au restaurant ou chez des amis un petit peu à manger cru. Hein. Ensuite, si vous avez envie de partager le repas parce que vous êtes bien chez ces gens, bien vous pourrez goûter. Il n'y a pas, enfin manger un petit peu. Maintenant, si vous mangez cru principalement et qu'un soir vous mangez une tartiflette, puisque c'était ça. Vous risquez de l'apprécier au niveau de la bouche, au niveau du ventre. Quand vous allez vous coucher, ça risque d'être un petit peu une bombe atomique. Ça risque de vous dire « ça, j'en veux pas du tout ». Donc peut-être que vous aurez des expériences. C'est pas obligé, mais peut-être que vous aurez des expériences terribles, comme vous tordre de douleur, comme moi j'ai eu après un tout petit morceau de pizza végétarienne. Je me suis dit « ben là, j'ai compris que le blé, c'était vraiment pas bon pour moi ». Mon organisme me disait très clairement que c'était pas bon. Donc, avant, j'entendais pas parce que je mangeais peut-être davantage ce genre d'aliments. C'est ce qui se passe, c'est que si vous arrêtez ce bruit de fond et que vous arrêtez cette inflammation, au moment où vous la refaites, parce que quand vous allez remanger, vous allez remettre le processus en route, eh bien, vous allez l'entendre. Et ça, c'est très sain. D'accord ? C'est comme une allergie. L'allergie est là pour vous dire « je ne veux pas de ça ». Elle n'est pas là pour vous embêter. Donc, vous aurez partagé une fois. Bon, en général, je pense qu'on a du mal à comprendre la première fois. Donc, on va y retourner une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. À un moment donné, on en a assez de ça. Donc, à un moment donné, vous apprenez que ce n'est pas l'aliment qui vous convient. Ça ne vous empêche pas d'aller manger avec vos amis et de ne pas manger les mêmes choses qu'eux. Le fait d'être avec des amis n'oblige pas à partager la même chose.
Du coup, est-ce qu'on n'observe pas à un moment donné que les gens, ils vous invitent plus parce qu'ils savent pas quoi vous faire à manger ?
Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vous inviteront peut-être plus parce que ça les agace que vous ne mangiez pas comme eux. C'est possible. Ça peut être le contraire. Ils peuvent aussi voir que vous êtes en pleine forme. Donc, ils ont peut-être envie aussi d'être en pleine forme. Donc, ils se mettent à manger un petit peu comme vous. Et après, si c'est vraiment des amis, ils peuvent aussi avoir envie de vous faire plaisir. Et peut-être pas de faire la tartiflette le jour où vous voulez. Tout est possible. Pour ma part, je garde une vie sociale autant que je veux. Voilà, ça se passe. J'arrive à trouver toujours à me nourrir. Et voilà. Je sais pas si ça répond. Merci. Oui, je préfère qu'elle vous parle parce que c'est enregistré.
Personnellement, moi, je propose d'emmener mon repas. Et j'ai des amis qui sont très sympathiques et qui acceptent. Et même des fois, ils sont très gentils, qui me proposent de faire quelque chose. Donc, voilà. Il y a des personnes avec qui ça ne se passe pas très bien. Mais si c'est vraiment nos amis, ça se passera bien. Il y aura une solution. Et même nous, il faut les mettre à l'aise. Il faut leur dire, écoute, j'emmène mon repas, te vexe pas. Il faut être gentil comme ça. Et en principe, ça passe bien.
J'ai lu Burger, Claude Burger.
Il faut parler dans le micro.
Claude
merci.
Burger sur les légumes crus.
L'instinctothérapie.
Voilà. Et en ce moment, j'essaye de manger cru. Puis je me suis remis un petit peu à manger cuit plus des céréales. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas du tout. Ça fait des gaz. Et j'ai eu une urine assez. Pas alcaline, acide.
Mm-hmm.
Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des recettes. Pour ça.
Je pense que chaque cas est particulier et que là, on ne peut pas évidemment rentrer dans le détail, mais chaque manifestation que vous allez avoir, chaque aliment que vous allez choisir d'introduire dans votre façon de vous nourrir va entraîner des choses. Par exemple, vous me dites que vous avez des gaz, bien sûr. Si vous nourrissez, si vous avez une flore qui va produire des gaz, après c'est normal d'avoir une certaine quantité de gaz dans sa digestion parce que nos bactéries vont fermenter, elles vont produire du gaz, bien sûr. Mais ça va dépendre de la quantité et de ce que vous mangez. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond. En tout cas, il faut chercher, il faut essayer d'équilibrer tout ça et que vous vous sentiez bien. C'est ça, l'objectif. Ouais. Voilà.
Bon. Merci.
Voilà. Voilà. Ben, écoutez...
Juste une petite question, s'il vous plaît. Excusez-moi. Vous avez dit que vous faisiez des crackers et des pizzas, mais c'est cuit ?
Bien sûr que non, c'est totalement cru. Donc,
Les
crackers aussi, ils sont déshydratés en dessous de 40 degrés. Pour ma part, je monte pas à plus de 40 degrés parce que je pense que le déshydrateur est pas suffisamment fiable pour que je sache. Donc je reste à 40 degrés, voilà. Et donc j'ai des crackers, comme vous l'avez vu certainement sur tout ce que vous avez vu. Bon, sauf les vues de montagne sont faites par des stagiaires, soit par moi quand j'expérimente. Je vous remercie vraiment de tout l'intérêt que vous portez au cru. Et je vous encourage juste, pour ceux qui le découvrent, à mettre un tout petit peu plus de cru dans votre assiette, à mastiquer bien et à manger un petit peu plus végétal. Voilà, c'est vraiment une proposition ouverte. Hein, voilà. Mais je vous remercie.
Un grand merci.